divers aspects de la pensée contemporaine. Aujourd'hui, l'Union rationaliste, une émission proposée par Emmanuel Huysmans-Perrin. Aujourd'hui, à l'antenne de l'Union rationaliste, Guy Bruit et André Grimaldi se retrouvent autour du numéro 217 de Raison Présente, Crise et Expertise. Guy Bruit, vous êtes le directeur de Raison Présente. Pouvez-vous nous parler de l'importance de ce numéro ?
Oui, alors très brièvement, je voudrais dire que constituer un numéro comme celui-ci sur des problèmes d'actualité, c'est assez difficile parce que une revue trimestrielle pour traiter les trois choses à la fois que je vais dire, c'est-à-dire l'histoire avec un grand H, ça c'est assez facile. L'actualité, c'est difficile parce qu'on risque très vite de s'y enliser, de dire n'importe quoi ou ce que tout le monde a déjà dit. Et puis, il faut savoir prendre un peu de recul, avoir suffisamment de recul pour parler un peu sérieusement des problèmes abordés. Alors, nous avons essayé de jongler avec ces trois choses, ce qui fait qu'il y a un article d'histoire qui montre comment la notion d'expertise s'est construite de la fin de l'Ancien Régime à la Grande Guerre. Sur la question de la science telle qu'elle a pu se pratiquer et se faire dans la crise dite du Covid, nous avons essayé de regrouper les choses de la façon suivante. Deux articles de Jean Jouzel et de Patrice Debré montrent comment la science se construit. Ce qui nous a intéressé, c'est qu'il s'agit d'hommes de terrain. Théoricien, mais homme de terrain. Nous avons montré aussi quels pouvaient être les problèmes de l'école et en quoi il pouvait y avoir une intrication entre l'école et la science. Alors pour la science, nous avons beaucoup reproché à M. Blanquer de penser que les sciences cognitives permettraient de sauver l'école. Et nous avons donné la parole à une dame qui, elle, connaît très bien ses problèmes. Elle est directrice d'une école dans le 20e et elle explique comment diriger une école dans le 20e pendant la crise sanitaire. Ça n'a précisément pas été aussi simple que nous le disait notre chef.
J'ajoute que Philippe Champy s'est également occupé d'analyser ce qu'il en était du rapport d'expertise aux sciences cognitives que le ministre Blanquer utilise fréquemment.
Oui. C'est-à-dire, en gros, je dirais qu'il montre comment la science peut être dévoyée en fonction d'objectifs politiques et très idéologiques. Et puis, le numéro s'appelle « Crise et expertise ». L'expertise, le problème de l'expertise et des experts, il y a une place tout à fait centrale. Le numéro, c'est la raison pour laquelle le numéro s'ouvre par un excellent article philosophique et qui nous montre comment nous pouvons encore faire notre profit de la lecture de Platon et des sophistes, ici Protagoras, qui nous aide à nous poser les bons problèmes de la bonne façon. Et puis, il y a un article qui nous parle du problème de la liberté. Qu'est-ce que notre liberté dans une telle situation ? Voilà ce que nous avons essayé de montrer. Il y a un article auquel je n'ai pas fait allusion, parce que c'est celui qui va être l'objet de l'entretien entre le professeur André Grimaldi et Emmanuel.
Oui, André Grimaldi, bonjour.
Bonjour.
Je rappelle aux auditeurs que vous êtes professeur émérite de diabétologie au CHU de la Pitié-Salpêtrière et vous avez co-signé avec Jean-Paul Vernant dans ce très beau numéro de Raison Présente, Crise et Expertise, un article qui me semble non seulement important mais aussi nécessaire. Vous y produisez une analyse historique de l'hôpital public depuis 1958. Puis, vous réfléchissez à la façon dont l'épidémie de Covid-19 est arrivée dans un hôpital public à bout de souffle et en crise. Vous analysez les raisons de la déception du personnel hospitalier et des médecins face au Ségur de la santé. Et vous faites des propositions pour reconstruire l'hôpital public par la démocratie sanitaire. Voilà le plan de votre magnifique article, très important. Alors ma première question est la suivante. Comment l'épidémie de Covid-19 a surgi dans un hôpital public en crise et quelles ont été les différentes dynamiques vis-à-vis de ces vagues épidémiques successives ?
Alors effectivement, l'hôpital était en crise depuis des années. Le système de santé lui-même était en crise. On a eu les crises des EHPAD, les crises de la psychiatrie, les crises de la pédiatrie. Alors c'était dû à, d'une part, une politique d'austérité, suivie depuis la crise de 2007-2008, et à une gestion commerciale. Et donc on appliquait l'idée de l'hôpital entreprise, une entreprise commerciale, et donc le dogme était devenu pas de stock, du flux. Alors, pas de stock du flux pour les médicaments, on l'a vu, des médicaments aussi indispensables que le Curare, que Midazolam, pour endormir les patients, on en manquait, on manquait de tout, on en manquait des masques, évidemment, mais c'était vrai aussi pour les lits d'hôpital, pas de stock du flux, et donc l'hôpital s'est trouvé complètement démuni. Et alors, ce qui a été le choc, c'est que face à la première vague, il y a eu une mobilisation des soignants qui ont inversé complètement cette logique. Par nécessité, c'est eux qui ont pris la main.
Par rapport au directeur d'hôpital.
Par rapport au gestionnaire. Avant, on faisait des soins pour la gestion, pour être en équilibre, pour pas être en déficit. Tout d'un coup, c'est plus le problème. Les soignants étaient eux-mêmes totalement solidaires. Il n'y avait plus de querelles entre disciplines. Tout le monde était mobilisé. Et le pays était mobilisé derrière ses soignants. Au nom de valeurs. Quelles étaient les valeurs qui mobilisaient un pays? Donc, le paradoxe était, on était démunis et on retrouvait le sens profond du soin. Est arrivé, alors au fond, dans cette première vague, on a vu directement ce qu'était un service public au service du public.
Absolument.
Avec des gestionnaires au service des soignants.
Voilà ce à quoi on aspire.
Voilà ce qu'on veut. Arrive la deuxième vague, et la deuxième vague, on peut dire, là, le choix a été plus « il faut maintenir l'économie ». Ça a été le choix, d'ailleurs, qui a été arbitré entre « faut-il laisser les musées ouverts ?» ou les grands magasins comme le BHV, le Printemps, etc. Donc, c'est clair, on a laissé les grands magasins ouverts, on a fermé les musées. Et puis, avec la logique qu'on a pris de vivre avec le virus de demi-mesure, pénible, de couvre-feu, de semi-confinement, est arrivée la troisième vague où là, la population était épuisée. En gros, là, à ce moment-là, on a suivi qu'est-ce qui est acceptable par la population. Et paradoxalement, à ce moment-là, les soignants, notamment les médecins, sont devenus comme ceux qui nous empêchent de vivre normalement. Et donc on est retombé dans une dépression profonde qui touche les hôpitaux maintenant. Donc on a l'inverse. Un collègue réanimateur écrit dans le journal Le Monde, « Je n'ai jamais vu autant de soignants démotivés. » Alors qu'on a eu une motivation exceptionnelle
à la première
vague. Oui. Voilà donc la situation dans laquelle on est. Et il dit lui-même, maintenant... Je dormais pas pour savoir si j'avais pris les bonnes décisions d'intuber ou pas un patient, que fallait-il faire, tout ça n'était pas très codifié, on avançait à tâtons, au mieux. Et il dit maintenant je ne dors plus parce que je me dis, est-ce que l'hôpital public va survivre à cette crise?
Alors, je voudrais que vous nous disiez ce que vous avez pensé du Ségur de la santé et est-ce qu'on n'est pas en droit, comme votre collègue hospitalier, de perdre espoir?
Alors, le Ségur, il y avait deux volets. Il y avait un volet indispensable, urgent, qui était une négociation salariale. Nous étions, avant le Ségur, pour le salaire d'une infirmière en 28e position sur 32 pays de l'OCDE.
Oui. Donc, bas de l'échelle.
Au bas de l'échelle, enfin, de manière tout à fait inadmissible. Parce que les coûts salariaux, la masse salariale, c'est le principal objet de dépense de l'hôpital public. Et dans la politique d'austérité, la première chose que faisait un directeur, c'est de comprimer la masse salariale. Ce qui fait aussi, derrière, pas d'embauche, conditions de travail dégradées, donc qualité dégradée. Alors, il y a eu une avancée. On ne peut pas dire que 8 milliards, c'est rien.
Oui.
Bon, il y a une avancée qui ne nous met pas encore à la moyenne de l'OCDE, qui devrait être au moins l'objectif de la France. Être au moins dans la moyenne de l'OCDE pour les salaires moyens des soignants. Et puis, il y avait un deuxième volet, qui était quelles leçons on tire, Justement, on a vu quelle place pour l'hôpital public. Est-ce qu'on ne s'est pas trompé sur hôpital entreprise avec cette gestion, tarification à l'activité, comme si on était une grande surface qui vend des produits en l'occasion, qui vend des séjours. Et là, grande déception, parce que c'est, il y avait eu les discours du président de la République qui avait laissé un grand espoir. Hein, l'État-providence, c'est pas une charge, c'est une chance. Il faudra nous réinventer. Donc on dit, bon, il y a une compréhension, il y a un changement d'orientation. Et patatrac, le Premier ministre, Édouard Philippe, à l'époque, introduit le Ségur en disant le diagnostic était le bon, nous avons fixé le bon cap, il s'agit seulement d'accélérer. D'ailleurs, c'est typique, dans la convocation du Ségur, le mot public n'est pas écrit une seule fois.
Oui.
Donc, alors tout le monde est déçu. Hein. C'est-à-dire que les professionnels de ville disent « et nous, il nous faut un Ségur pour la ville ». Les médecins de santé publique ils disent « la santé publique était un grand sujet » où on a vu qu'on avait quand même des grands progrès à faire. Ils disent « et nous, il nous faut un Ségur de la santé publique ». Et l'hôpital est déçu et dit « il nous faut un deuxième Ségur ». Donc ce Ségur a été une manière d'enterrement de ce qu'avait été la prise de conscience sur le système de santé, ses qualités, qui étaient notamment les maladies aiguës, les professionnels et la sécurité sociale.
Mmh, bien sûr.
Et ses grands défauts, les maladies chroniques et les inégalités sociales. Parce que cette épidémie est une syndémie. C'est la conjonction de trois épidémies. C'est une épidémie virale, c'est une épidémie de maladies chroniques, de l'obésité et du diabète. 60% des patients qui font des formes graves sont obèses, ou diabétiques, ou avec maladies cardiovasculaires. Et c'est une épidémie de la pauvreté. Et elle met un effet de loupe sur les défauts de notre système de santé, la prise en charge des maladies chroniques, la prévention, les inégalités sociales, la sécurité sanitaire. Donc là, la grande déception du Ségur sur ce point.
Alors c'est aussi dans ce sens que vous proposez, dans cet article très important, des propositions décisives qui nécessitent, nous semble-t-il, une volonté politique forte. Quelles sont vos propositions, André Grimaldi ?
Évidemment, on ne peut pas traiter de l'hôpital. L'hôpital n'est pas malade en soi, c'est le système de santé qui est malade. Nous avons construit un système de soins autour des maladies aiguës où nous sommes assez performants. Parce qu'au fond, la chirurgie ambulatoire, c'est un grand progrès. La prise en charge des infarctus du myocarde, c'est un grand progrès. Les greffes d'organes, on n'en parle pas, il n'y a pas de scandale. C'est quand même une organisation des soins qui fonctionne. Par contre, nous sommes très mauvais sur tous les terrains de la prévention, sur la maladie chronique et sur la santé publique, et ça de manière historique. Alors, il faut revenir, au fond, à ce qu'étaient les valeurs de ceux qui ont créé la sécurité sociale en 45.
Bien sûr.
C'était l'idée d'un bien commun qui ne doit pas être privatisé, qui ne doit pas être étatisé. Et l'évolution s'est faite au contraire, dans une étatisation de la gestion et une privatisation de la distribution des soins. Donc il serait assez logique de dire, reprenons ce qui a été, en gros, le compromis historique de 45. Est-ce qu'il faut maintenir ce truc incroyable, parce que si nos professionnels de santé sont moins bien payés que la moyenne de l'OCDE, par contre, en frais de gestion, nous sommes très au-dessus de la moyenne de l'OCDE. Nous dépensons 7,5 milliards de frais de gestion de ce qu'on appelle les assurances complémentaires, mutuelles et autres. 7,3 milliards pour la Sécu. Alors la Sécu rembourse 78% des soins et dépense moins en frais de gestion que les complémentaires qui remboursent 13%. Et puis on a 2,5 milliards pour les agences de l'État. Donc on a 18 milliards de frais de gestion. Donc on devrait d'abord commencer par se poser cette question. On a un système qui est à la fois déficient et suradministré. Et puis on a une médecine très prescriptive. Alors il faut, en plus on a un vrai problème, c'est-à-dire quand même un problème de démocratie. Tout ce système a évolué vers une logique à la fois de gestion étatique, bureaucratique et de business commercial dans le dos de la population. Jamais la population n'a été interrogée d'une manière ou d'une autre pour savoir est-ce qu'on dépense assez ou pas pour la santé, quels sont les gaspillages et qu'est-ce qu'on pourrait faire. Enfin, il n'y a pas de débat réel sur ce sujet. Et le risque d'ailleurs, c'est que ce débat soit même escamoté dans les échéances qui viennent. Alors évidemment, il faudrait qu'il y ait l'idée d'une co-gestion. Personne n'a envie maintenant de défendre un système public bureaucratisé, dysfonctionnel, où la qualité des soins se dégrade. Tout le monde va dire qu'il faut refonder un service public. Alors, est-ce qu'on doit aller vers un service public ou du privé non lucratif ? Avec les crises qui s'annoncent, je crois qu'il faut une co-gestion. Il faut une co-gestion avec l'État, décentraliser. Il faut que les collectivités territoriales, on l'a vu dans la crise, jouent un rôle. Il faut que les associations de patients jouent un rôle. Des conférences citoyennes peuvent jouer un rôle. Les gens sont attachés à ce bien supérieur qu'est la santé. Faut-il encore donner les moyens démocratiques à la société de s'exprimer sur ce sujet ?
Qui peut porter un tel projet politiquement, André Grimaldi ?
Alors, comme je suis professionnel de santé, je vais vous dire, je ne sais pas qui. Je frappe à toutes les portes, en gros, pour réactiver cet esprit de 45. Ce qui me paraît le plus urgent actuellement, c'est d'ouvrir des espaces démocratiques. Est-ce qu'on peut avoir un référendum sur est-ce qu'on dépense trop ou pas pour la santé ? Est-ce que des conférences citoyennes peuvent exister à niveau local, à niveau régional ? Comment on élabore le budget de la santé qui est voté chaque année à l'automne par les députés qui lèvent la main sans suivre ce que dit l'exécutif ? En 2019, le Parlement vote une augmentation du budget de 2,1%. Il y a la crise des hôpitaux. Le Premier ministre Édouard Philippe et la ministre à l'époque Agnès Buzyn décident d'augmenter à 2,4. Les députés qui avaient déjà voté relèvent la main pour voter 2,4. On leur aurait dit 3, ils auraient dit 3. Donc on a à la fois une démocratie représentative qui est indispensable parce que c'est le socle de la démocratie, mais où est la démocratie sanitaire ? Où est la démocratie citoyenne ? Donc tout ça est à repenser si on veut une société nouvelle, moderne, et pas seulement s'en remettre à... le président le plus intelligent du monde.
Bon, c'est sur ces mots que nous allons clore cette émission. Je redis le titre de votre article écrit avec Jean-Paul Vernant, André Grimaldi, « Reconstruire l'hôpital public par la démocratie sanitaire ». Je vous remercie.
Merci à vous.
Vous pouvez vous procurer le numéro 217 de Raison Présente sur crise et expertise en le commandant sur le site de l'Union Rationaliste, comme d'ailleurs le numéro 216 dans lequel Frédéric Pierru a écrit un bel article intitulé « Quelques considérations sur l'hôpital de Flux ». Je remercie Peyré Legras qui a rendu possible cette émission, Claire Poinsignon qui s'occupe pour nous du site de France Culture et Roland Lemoine et Philippe Desgremont qui s'occupe admirablement du site de l'Union Rationaliste. Je vous dis au mois prochain.